This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffres, ici on t'aime.
I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Il ne durera pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche pense everywhere en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.
Jason, l'histoire ou quand le jazz retrouve ses repères, ou plutôt actuellement cette semaine notamment, quand l'histoire rattrape l'histoire. En effet, depuis hier, nous avons donc commencé avec Florent de faire un peu l'historique de la revue Charlie Hebdo. En effet, les jeunes générations qui participent massivement, on l'a vu, lors des manifestations au rassemblement, eh bien peut-être ne savent-elles pas comment est né Charlie Hebdo. Et nous, à Divergence, on n'a pas voulu non pas rendre hommage à ses créateurs ou à ses participants et ses membres, mais plutôt, parce qu'ils n'auraient pas aimé avoir des hommages, faire en sorte de retracer un peu leur histoire et comment est né ce journal. Florent, bonjour.
Bonjour Gérard, et oui, ce journal mythique, ce journal vraiment iconoclaste, il convenait de rappeler pour les jeunes générations ce qu'il était, comment il est né et qui étaient ses collaborateurs. On a parlé hier de Kavanagh et de l'inénarrable professeur Choron, alias Georges Bernier. Et je pense qu'il est temps maintenant de parler des autres collaborateurs qu'il y avait à Charlie.
On va apporter une précision quand même. Pourquoi professeur Choron ?
Et oui, parce que les premiers locaux du journal se situaient 4 rue Choron. Et donc, Georges Bernier est devenu le professeur Choron, la stature du professeur Choron, c'est-à-dire ce grand monsieur avec le crâne complètement chauve et son long fume-cigarette et son ton professoral un tout petit peu particulier.
Et c'est vrai qu'à tous deux, donc Kavanagh et Choron, ils vont lancer donc ce Harakiri qui va devenir un journal déjà de référence, iconoclaste certes, et qui va détonner dans le paysage de la presse française. Parce que, au-delà de leur volonté de publier leurs dessins, ils vont apporter cette fraîcheur et cette liberté que n'avait jusqu'à présent aucun journal.
Oui, parce que Harakiri Hebdo ne respectait rien. Harakiri ne respectait rien, ne respectait pas les institutions, ne respectait pas l'armée, ne respectait pas la religion, ne respectait pas le général de Gaulle. Et ça, on va en parler un tout petit peu plus loin. Mais revenons un petit peu aux collaborateurs de Charlie. On a donc parlé de Choron et de Kavanagh. Mais il y a plein de dessinateurs qui sont venus rejoindre l'aventure Harakiri. Et entre autres, je pense à Volinsky qui nous a quittés donc, ces derniers jours.
Et oui, qu'un des fondateurs a donc disparu avec d'autres, mais lui, c'était vraiment le fondateur, on peut dire, la pierre angulaire de ce Charlie Hebdo venu de Harakiri. Il a participé à toute l'aventure, Volinsky, et c'est vrai que, eh bien, comme l'a dit Kavanagh dans l'émission qu'on a écoutée hier, il était lui, comme il disait, tout simple petit artisan et petit manutentionnaire ou manute, comme il disait. Pouvoir accueillir en son sein tous ces grands du dessin, c'était un honneur auquel il n'avait jamais pensé. On va donc écouter notamment un peu qui était Volinsky et notamment comment, à partir de Kavanagh, ils se côtoyaient tous deux et s'estimaient-ils tous les deux.
Comme je n'appartiens à aucun parti, à un mouvement, on peut dire que j'appartiens au mouvement gauchiste, si c'est vrai, je suis gauchiste. Mais je n'appartiens pas à un parti et j'ai une entière liberté. Encore si, est-ce qu'on peut dire je suis gauchiste, j'en sais même plus rien, moi. Je sais même plus ce que je suis. Mais je sais que j'appartiens à un mouvement de pensée qui est important, qui est celui des hommes de cette époque et des hommes les plus intelligents, ceux que je respecte le plus, quoi. Des gens qui, justement, ne croient pas en grand-chose, ni en Dieu, ni en diable, ni au parti, ni... et qui se font leur propre jugement, qui regardent les choses et qui essayent de réfléchir et de trouver eux-mêmes les réponses, pas des réponses toutes faites, pas... Si tu as interviewé Kavanagh...
Qui c'est que tu n'aimes pas ?
Les cons.
C'est qui ?
Ils sont beaucoup.
Par exemple ?
Pas besoin de donner de nom. Les cons, c'est ceux qui ne veulent pas se servir des boyaux de leur tête. Soit parce que d'abord, ils en ont pas. Ceux-là, on n'y peut rien. Enfin, on peut pas me forcer à les aimer. Ils sont dangereux. Même s'ils ne le font pas exprès. Ceux qui, ayant ce qu'il faut dans la tête, ne veulent pas s'en servir, veulent ignorer qu'ils en ont parce qu'ils ont peur de découvrir des choses. Tu sais, dès qu'on met en marche ce qu'il faut bien appeler la raison, ça vous entraîne très très loin, ça élargit l'horizon, ça creuse soudain un grand abîme devant vos pas, et il y a des gens qui ont peur, qui veulent pas, et qui préfèrent oublier qu'ils ont une raison et ne pas s'en servir, et faire comme s'ils n'en avaient pas. Et il y en a d'autres, simplement par intérêt de boutique. Ce qu'on appelle l'esprit de caste, l'esprit de classe. Les cons volontaires. Il y a deux catégories de cons, les cons de naissance et les cons volontaires. De toute façon, ils sont aussi dangereux les uns que les autres. Je ne les aime pas.
Et voilà comment à la fois Wolinski se présentait. Donc on peut dire qu'il disait qu'il était gauchiste et qu'il avait un peu oublié ce côté gauchiste, ne s'y retrouvant pas. Et quant à Cavana, évidemment, à vous de choisir dans quelle catégorie vous mettez, catégorie de cons volontaires ou catégorie de camp de naissance.
C'est vrai que les gauchistes, ils rigolent pas tous les jours. Donc je comprends que Wolinski ait voulu prendre ses distances. Et quand Cavana parle des cons, c'est vrai que les politiques s'adressaient et s'adressent encore souvent toujours aux cons. Pourquoi ? Parce qu'ils sont nombreux.
Donc ça veut dire que depuis 50 ans, la connerie n'a pas évolué, alors.
La connerie prétend penser maintenant, ce qui est pire.
Ouh là là, on va se lancer dans un débat, je vous assure qu'on va refaire un peu le harakiri à nous deux, mais non, on n'en est pas là et on n'en a pas ni la prétention, ni peut-être les capacités, ni le talent. Bon, on va rester à notre place et ce sera beaucoup mieux. On va quand même dire qu'il n'y avait pas que Wolinski qui avait rejoint l'équipe d'harakiri.
On avait parlé un tout petit peu de Reiser hier, Reiser, l'immense Reiser qui, avec deux coups de crayon, vous faisait deviner plein de choses et exprimait plein de choses avec un dessin minimaliste et on comprenait tout et c'était drôle tout le temps. Mais il y en a un autre aussi énorme, c'est le Grand Duduche et je parle de lui avec beaucoup, beaucoup de tendresse. Comment a-t-on pu assassiner ce monsieur ? Je parle de Cabu, le grand Cabu qui avait un dessin extrêmement féroce alors que c'était quelqu'un d'adorable quand on l'a peu connu. C'est quelqu'un d'une gentillesse absolument incroyable et ça se voit aussi dans ses débuts. Le Grand Duduche paraissait à l'époque dans Pilote, Matin, quel journal. C'était des dessins pleins de tendresse, mais en même temps, comme Cavana le disait, on dénonce les cons, on n'aime pas les cons, et lui, il détestait particulièrement les militaires.
Il faut dire aussi qu'il avait un look assez particulier, Cabu, parce qu'il avait cette bouille juvénile, on va dire, avec une espèce de... Allez, on va dire qu'il avait une coupe de cheveux qui faisait en sorte qu'on lui avait posé un bol sur la tête, un peu plus court devant, mais vraiment en rond.
C'était toujours le Grand Duduche, le Grand Duduche avec ses petites lunettes. Et jusqu'à la fin, il y avait quelque chose d'extraordinaire avec lui, c'est qu'il est resté toujours avec un air très juvénile, très adolescentin.
Oui, et c'est vrai qu'en plus, il avait lorsqu'on a pu le voir dans des interviews, il avait toujours dans ses propos cette manière de... Non, déjà de rire de tout, certes ça c'était son propos initial interne, mais aussi de sourire de tout, c'est-à-dire qu'il était en permanence en train de sourire.
Oui, en train de sourire, et puis en même temps, il y avait ce trait, je pense que c'est l'un des plus grands dessinateurs de presse du siècle, il faut revenir peut-être à Daumier, aux gens de l'assiette au beurre. Il faut parler aussi de l'assiette au beurre, parce que c'est les ancêtres de Charlie Hebdo. L'assiette au beurre, c'était donc un journal satirique du début du XXe siècle, qui a réuni de très grandes signatures, et je pense que Charlie, par Wolinski, par Reiser, par Cabu, et je ne voudrais pas citer tout le monde, parce qu'il y en a eu beaucoup d'autres, ils étaient dans cette lignée-là.
Il y avait Fred, qu'on a déjà cité hier.
Mais Fred, il n'est pas resté longtemps.
Il n'est pas resté longtemps. Et c'est un peu dommage, parce qu'il avait quand même, lui aussi, sa touche personnelle.
Mais lui, il était beaucoup plus poétique, Fred, que politique et satiriste. Il était beaucoup plus poétique. Pour les gens qui connaissent les aventures de Philémon, qui était paru dans Pilote aussi, c'était vraiment une veine beaucoup plus poétique.
Et puis l'ineffarable également Topor, qui était venu les rejoindre.
Ah, Topor, le grand Topor. Oui, bien sûr.
Et donc, on en était arrivé à 1961, qui fut en 61 la première interdiction quand même d'harakiri.
Mais avant, on va revenir peut-être à Cabu, parce que Cabu était, il adorait le jazz, il adorait Charles Trenet. Et Charles Trenet, vous savez, ce fou chantant, celui dont Jean Cocteau disait « c'est un feu de paille qui dure ». Et puis Cabu adorait Charles Trenet. Je crois qu'on a un extrait où Cabu chante quelque chose qui... Je ne sais pas si c'est du Charles Trenet, mais ça ressemble beaucoup à du Charles Trenet.
Tout à fait. Mais peut-être que nos auditeurs seront plus perspicaces que nous, plus connaisseurs, reconnaîtront-ils l'auteur des paroles de cette chanson.
À l'auberge de la Verge, je laissais dormir mon cheval, et fantasque comme un masque, je courus droit au corso, en chantant dans la bourrasque ce refrain de Caruso. Quand j'étais jeune en dette, en dentelle, en bonnet pétard, je passais pour voir ma belle à travers cheminées et placards. Dans la rue, la cohue, une belle signorina me fait signe qu'elle est digne d'entrer dans la danse avec moi. Je l'emporte à demi-morte, elle tombe dans mes bras, et sa mère, en colère, nous menace et crie là-bas. Ramenez-moi donc ma fille, cavalier, chevalier du guet, je suis veuve et sans famille, je suis vieille et je suis fatiguée.
On pourrait presque dire que cela ressemble à une musique de Georges Brassens.
Oui, mais les paroles, c'est plutôt du Charles Trenet.
Ah oui, non, mais ça, je suis entièrement d'accord. Vraiment... Mais je veux dire, sur le phrasé musical,
oui,
ou bien c'est Cabu qui l'a interprété de la sorte, mais c'est vrai qu'on a en tête la belle espagnole, je trouve, plus le titre de la chanson de Brassens.
Moi non plus, mais ça m'en viendra.
Hein, ça reviendra. Voilà, donc ça, c'était Cabu, donc vraiment, personnage inénarrable lui aussi, qui fera les belles heures de tous ces journaux. Et puis, tu nous as dit qu'effectivement, c'était un admirateur inconditionnel de Charles Trenet.
Et il y a un admirateur inconditionnel. Il l'a rencontré plusieurs fois. Mais il faut savoir que Charles Trenet, il a écrit des milliers et milliers de chansons. Il y en a quelques centaines qui ont été enregistrées, mais il y en a encore quelques milliers qui doivent traîner dans les tiroirs. Et pour revenir sur Cabu, il y avait une chose extraordinaire. C'est que Cabu, il avait une productivité au niveau dessin qui est absolument incroyable. C'est-à-dire que quand un dessinateur est capable de faire 1, 2, 3 dessins, Cabu, il peut en faire 40 avec des idées à chaque fois, et des idées toujours cabuyennes, si j'ose me permettre de ce néologisme.
Et oui, c'est-à-dire que tous ces dessinateurs étaient effectivement des créateurs innés, c'est-à-dire qu'ils pouvaient se saisir de tout, ils avaient donc, on va dire, je pense qu'ils devaient partir d'une idée lu dans la presse ou dans l'information, à la radio ou dans la presse. Et à partir de là, lors de la conférence de rédaction qui avait lieu tous les lundis, eh bien, ça fusait de tous les côtés, quoi.
Oui, ben le comité de rédaction, imaginez le comité de rédaction avec Choron, Cavana, Volinsky, Reiser, etc. Ben, ça devait être des sacrées parties de rigolade. Et puis, en même temps, il y avait les dessins qui partaient, etc. Les idées, ben, si on croquait un tel comme ça, si cette telle situation... Ben, voilà, telle situation, ben, ça veut dire ça, en fait. Et donc, on va le transformer par l'humour en quelque chose qui soit clair. Parce que n'oublions pas qu'il y avait un aspect quand même politique dans Harakiri, c'est-à-dire qu'on décryptait l'actualité par le biais du rire et on faisait comprendre des choses aux lecteurs que les autres journaux n'exprimaient pas.
Et il faut dire que, eh bien, Cavana, qui était rédacteur en chef, lui, décidait de la une. Il y avait quand même un certain respect, non pas les hiérarchies, parce qu'il n'y avait pas de hiérarchie, mais il y avait quand même quelqu'un qui disait, eh bien voilà, on a fait 60 dessins, malgré tout, celui-ci, ce sera la une.
Mais ça devait sacrément s'engueuler.
Ah, ça devait sacrément s'engueuler.
Et ça
devait
sacrément picoler aussi pendant les réunions. Hein. Je pense que les connaissants, ça devait être un petit peu ça.
Il faut dire que lorsqu'on aperçoit sur des réseaux sociaux, comme on dit maintenant, des retranscriptions de ces séances, effectivement, on voit plutôt trôner des bouteilles de pinard que des feuilles de dessin vierge.
Et beaucoup de cigarettes.
Et beaucoup de cigarettes.
Oui. Whisky, cigarettes et petites pépées, peut-être.
Peut-être, oui. C'est vrai qu'il y avait aussi quelques pépées qui venaient traîner par là, mais on les appellera ainsi, disons qu'elles étaient gentiment effeuillées.
L'expression est jolie.
C'était pour un journal effeuillé, ça dit bien ce que ça veut dire.
L'expression
est jolie. Eh bien voilà, c'était donc ainsi que se déroulaient ces séances de comité de rédaction. Et puis je crois que, eh bien, comme on l'a dit, Fred était effectivement peut-être celui qui avait le plus de poésie. Mmh. Et je crois que Charles Trenet, c'était avant tout un poète.
Je pense qu'on ne peut pas parler de Cabu sans aborder Charles Trenet. Donc moi j'ai choisi un petit morceau de Charles Trenet, assez tressautant. Faut dire que c'était Monsieur Swing aussi, Charles Trenet, pour l'époque, le fou chantant, comme je le disais tout à l'heure. Où sont ils donc?
Toute la semaine je vis au fond de mon quartier. Je n'y vois qu'un mur, je n'en vois même que la moitié. Et dans le fond là-bas sur une corde à linge, des caleçons, des chemises qui font les singes. Je voudrais un jour quitter tout ça,
voguer vers ce que je ne connais pas. Où sont-ils donc tous ces pays dont on nous parle dans les chansons? Ils sont ailleurs, très loin d'ici. Nuit tropicale, clairs horizons, soleil de feu sur la mer rouge, palmiers géants de l'Hindoustan. Technicolor, mon cœur qui bouge, voudrait connaître tous tes printemps, afin de mieux courir vers ces lointaines patries. J'ai dû voir mourir toutes mes économies. Mais au bout des trains, au bout des grands paquebots, y a passé certains des lieux très beaux. Y a des cafés, pas drôles du tout. J'y chante parfois pour faire des sous. Où sont-ils donc tous ces pays? C'est mon refrain, c'est mon roman, la pauvre histoire de toute ma vie, la fredonne à mes clients. Leur pauvre cœur ont soif de rêve, et ma chanson les mène là-bas, aux îles perdues, le long des grèves, où le malheur n'existe pas. Où sont-ils donc ces pays-là? Ils sont là-bas, là-bas, là-bas. Mais moi je sais qu'ils sont de faux pays dans des chansons. Où sont-ils donc?
Charles Trenet, donc où sont-ils donc? Et effectivement, en 61, le journal est interdit parce que vous doutez bien que peu de gens acceptent d'être brocardés ainsi. Mais croyez-vous qu'il suffira de cette espèce d'interdiction pour faire arrêter le journal? Certainement pas. Il va reparaître quelques mois plus tard, un mois plus tard.
Alors, pourquoi a-t-il été interdit? Il n'a pas été interdit pour une couverture, il n'a pas été interdit pour un numéro, il a été interdit pour l'esprit du journal. Alors, il faut savoir qu'avec la Ve République, il y a une loi qui est ressortie qui concernait les publications pour la jeunesse. Et les publications pour la jeunesse, ça concernait toute la presse. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un journal était dans un kiosque, on considérait que la jeunesse pouvait avoir un œil dessus et donc pouvait corrompre la jeunesse. Donc c'est cette loi-là qui a servi à chaque fois pour interdire Harakiri et puis après Charlie Hebdo. Hein, donc ne pas oublier. Et je crois que cette loi est toujours en vigueur.
Alors il faut dire que le journal reparaît, bon an, mal an, avec 3 bouts de ficelle et 4 francs 6 sous. Et en 66, à nouveau. Nouvelle interdiction.
Nouvelle interdiction. Et cette interdiction, c'est une menace économique pour le journal, bien entendu. C'est-à-dire, quand un journal ne paraît plus, comment est-ce que vous payez les collaborateurs? Comment est-ce que vous payez les dessinateurs? Comment est-ce que vous payez les contrats que vous avez faits avec les imprimeurs? C'est-à-dire, c'est un étranglement économique. C'est-à-dire que, non seulement on ne paraît plus, on est muselé, mais en même temps, on n'a plus de sous pour pouvoir préparer la suite, pour lever l'interdiction. Et je me souviens, dans le livre de Kavanagh, qui s'appelle « Bête et méchant », où il parle de toutes les démarches qu'il a fait avec les administrations et les réflexions qu'il a eues de fonctionnaires complètement aberrants qui justifiaient l'interdiction du journal. C'était d'une bêtise absolue.
Mais Florent, est-ce que tu sais, parce que moi j'avoue que je ne le sais pas, est-ce que tu sais ou est-ce que tu crois que ce journal a bénéficié de l'aide à la presse?
Ah ça, je ne crois pas. Je ne crois pas. Parce
moi
que
non plus, mais je ne suis pas certain.
Il était un petit peu un outsider, un petit peu beaucoup un outsider dans la presse. Et il y avait une estime quand même d'une partie de la presse, de journalistes et surtout de dessinateurs, qui disaient on peut s'exprimer là, on peut s'exprimer là, on peut dire ce qu'on veut. Mais je ne suis pas sûr que les institutions l'aient beaucoup soutenu.
Et puis donc en 69, c'est la première fois que va apparaître le nom de Charlie. Avec un mensuel qui va s'appeler Charlie 3.
Alors oui, parce que c'était Charlie mensuel, parce qu'ils ont eu l'idée à la direction de Harakiri de faire un mensuel consacré à la bande dessinée. Et Charlie, c'était Charlie Brown, parce que c'était la première fois qu'il y avait les bandes dessinées de Charlie Brown qui étaient diffusées en France. Alors il faut savoir que c'était Kavanagh qui faisait les traductions en français d'après les traductions qu'il y avait en italien.
du journal Linus.
Linus, voilà. Et donc, c'est pour ça que ça s'est appelé Charlie Manuel, qui se voulait à la fois diffuser les bandes dessinées américaines et puis aider les dessinateurs de bandes dessinées contemporains et un petit peu d'avant-garde. Ça, c'était le mensuel.
C'était le mensuel, et c'est vrai que ça a été là aussi un peu une innovation, parce qu'il n'y avait que de la bande dessinée à l'intérieur. Alors, c'est vrai que c'était de la traduction, effectivement, au travers du magazine italien Linus de séries américaines.
Mais il n'y avait pas que ça.
Mais il n'y avait pas que ça.
Parce il y avait des Français,
il y avait
un petit peu de tout,
il y avait un peu de tout, mais c'était la première fois que, eh bien, pour s'en sortir et pour arriver à faire rentrer un peu de pesos dans les caisses, eh bien, Cavana, avec, je crois que c'est Delphi Lighton, oui, c'est ça.
Delphi de Thon
avait eu cette idée de vraiment de faire ce magazine mensuel.
Oui, c'était Delphi de Thon qui était le rédacteur en chef. Après, il y a eu Wolinski qui était rédacteur en chef. Et moi, je me souviens dans la publicité qu'il y avait dans les années 70, je pense que c'était à l'époque quand Wolinski était rédacteur en chef, la publicité pour Charlie Mensuel, le journal qu'on lit sur un divan en croquant du chocolat.
Ah, ça, je ne savais pas.
Ah, ben oui, mais je suis un peu de la vieille aussi là-dessus.
Oh, j'ai pas dit ça tout de suite. Mais tiens, puisqu'on parlait notamment d'Américains, je crois qu'il serait intéressant qu'on aille retrouver un peu le jazz américain dans sa forme la plus swingante possible, avec notamment Gene Krupa et ce Yardbird Suite. Et donc, effectivement, allez, moi je suis très musicologue, on va dire, et j'ai tendance à vouloir penser qu'on ne peut pas chanter des morceaux, mais je dois dire que mon confrère, lui, s'il écoute la musique, il parle beaucoup aussi. Hein.
Ah ben, moi quand je parle de Harakiri et de Charlie Hebdo, ben, je suis intarissable, il faut m'arrêter, c'est toi qui me laisses parler, hein, donc il faut m'arrêter.
La liberté est ce qu'elle est, il serait indécent que pour une émission sur Charlie Hebdo, on coupe la parole à quelqu'un quand même.
C'est vrai. Et d'ailleurs, suite aux interdictions multiples, bon, ils ont fait des tas de démarches, Choron et Cavana, ils reparaissent et puis après, ben, ils vont persister et signer, c'est-à-dire qu'ils vont faire encore pire, parce qu'à l'époque, Harakiri, c'était un mensuel, et puis en 69, après 68, ils décident de devenir hebdomadaire. Ça va d'abord être Harakiri Hebdo en février 69 et l'hebdo Harakiri. Je signale bien qu'on est après 68. Et je crois que Choron avait une explication sur mai 68. Il se sentait un peu responsable, si je ne me trompe.
C'est vrai que Choron considérait, il va nous l'avouer ainsi, qu'eh bien, ils sont à l'origine un peu, non pas de mai 68, mais de l'esprit de mai 68.
Exactement.
Et il était très fier de constater qu'eh bien, sur les murs de Paris, fleurissaient des slogans qui avaient été déjà imprimés ou illustré dans Harakiri.
Je suis vachement prétentieux, et Kavanagh avec moi aussi et toute l'équipe. On considère qu'il n'y aurait peut-être jamais eu de mai 68 en France si Harakiri n'avait pas existé en France. Parce que Harakiri a influencé, avant mai 68, c'est-à-dire Harakiri a influencé pendant 8 ans une jeunesse qui a fait mai 68. Voilà ce que nous pensons. Et nous avons trouvé sur les murs, en mai 68, des slogans Harakiri, et c'était vachement sympa, quoi.
Et oui, on est en mai 68, et par conséquent, là, la liberté n'a plus de limite, puisque effectivement, Paris explose, c'est le cas de le dire, à la fois de par ce qu'il s'y passe, par les manifestations des étudiants, notamment de la Sorbonne, où vont s'illustrer, eh bien, notamment, notre plus français parmi les Allemands.
Cohn-Bendit, bien sûr, mais c'est vrai que les slogans comme « il est interdit d'interdire », ça convient tout à fait à Charlie Hebdo. Et pas oublier aussi que mai 68, c'était une révolution sexuelle, et que la révolution sexuelle, elle était déjà en germe dans Harakiri, parce que ça parlait beaucoup de sexe et de cul, pour bien parler comme il le faut.
Il faut dire que Wolinski, là-dedans, il excellait.
Oh, vis-à-vis du cul, il a toujours eu une attitude d'adolescent, et comme la plupart des gens de Charlie Hebdo, c'était comme des gosses qui découvrent la sexualité et qui font souvent des blagues de potache et qui parlent de cul, de fesses, ben comme nous en parlons maintenant, aujourd'hui, librement.
Et oui, sauf que effectivement, il le faisait très librement, mais il le faisait à destination d'un public. Alors que nous, quand on en parle, c'est souvent entre amis ou en rigolade, ou même pas en rigolade, parfois sur des sujets très sérieux, où effectivement, maintenant, on fait appel à des sexologues, c'est beaucoup mieux que des discussions à bâton rompu, où chacun s'exprime par rapport à ce qu'il a envie de dire.
Mais heureusement que sur Divergence, il nous arrive de parler de fesses aussi.
Ah bon?
Oui, ça nous arrive.
Moi, je ne suis jamais invité. Enfin, tant pis.
Je t'invite la prochaine fois qu'on
D'accord.
parle de cul à Divergence.
Parfait. Vous voyez que nous aussi, on a un peu un esprit mai 68 avec bien des années plus tard.
Ah, moi, j'ai plutôt un esprit Harakiri. Harakiri, c'est grand-papa pour moi, hein, quand même.
Ah bon? Ah mais oui. Non, alors ne te vieillis pas puisque tu nous le mérites. Voilà. On va donc en arriver un peu à cette fin momentanée de l'émission et d'autre part de l'histoire de Harakiri telle qu'on veut vous la présenter. On se retrouvera demain, bien évidemment, pour la suite de ces émissions, puisqu'on ira jusqu'à Charlie Hebdo actuel et même demain. Et en parlant de demain, faut-il vous rappeler eh bien, que demain sortira le tout nouveau numéro de Charlie Hebdo.
Voilà, puis demain, on parlera d'un bal tragique.
Un bal tragique, mais auparavant, on va se quitter avec à nouveau Jim Krupa, mais cette fois-ci avec Anita O'Day et ce Let Me Off Up Down, avec notamment pour la partie vocale masculine, Roy Eldridge.
My name is Roy.
Well, look here, Roy, and let's get groovy. Say, you been uptown?
No, I haven't been uptown, but I've been around.
You mean to say you ain't been uptown?
No, I haven't been uptown. What's uptown?
It's pleasure you're about, and you feel like stepping out. All you got to shout is, let me off uptown. If it's a rhythm that you feel, then it's nothing to conceal. All you've got to spill is, let me off uptown. They got rib joints, juke joints, hip joints. Oh, where could a fella go to top it? If you want to pitch a ball, but you can't afford a hall, all you've got to call is, let me off uptown.
Anita, oh Anita, say, I feel something.
What you feel, Roy, the heat?
No, it ain't the heat, it must be that uptown rhythm, 'cause I feel like blowing.
Well, blow, Roy, blow.
Knows the dream of freedom.
Toi qui souffres, ici on t'aime.
I take pride in the words Ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Il ne durera pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche porte J.W.R. en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.